peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago donne.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors, avec aujourd'hui autour de la table Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Jean-Claude.
Bonjour à tous.
Et bien sûr, Karine.
Bonjour.
Alors les amis, prêts de s'y parade pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes?
Muy bien, vamos.
Voilà, alors on y va. Jean-Yves aussi?
Oui, bien sûr.
Mais toujours
avec le soleil, ça va.
Ah voilà. Alors, on va prendre le cheval au mot, et aujourd'hui, ça va être le mot haridelle. Alors, on découvre pour la première fois haridelle, hein, avec un H. On découvre pour la
c'est
première
fois... C'est pas flatteur.
Eh ben non, ben on découvre ce mot haridelle chez François Villon, qui décrit une femme de grande taille, sèche et maigre, suivant l'analogie longtemps faite entre la femme et la jument, ce qui était très sympathique. Alors, le mot haridelle serait issu d'un adjectif germanique qui signifie gris ou grisonnant, pour décrire une robe particulière de chevaux, tout simplement le cheval lui-même. Et il est à l'origine du mot « hara », où Jean-Claude, Karine, vous êtes actuellement en résidence.
Et autrefois, en Languedoc, on parlait de la jument, on disait « koi unase ».
Voilà. Alors, le mot est un petit peu discuté, puisque pour d'autres spécialistes, haridelle serait plutôt un emprunt au latin qui aurait donné vers la fin du XIVe siècle les adjectifs aride, desséché, décharné ou encore stérile. Bon, ce qui va quand même un petit peu dans le même sens.
Oui, c'est l'âge en porte-manteau, quoi.
Voilà, porte-manteau. Alors, effectivement, un peu plus tard, haridelle décrit un vieux cheval efflanqué, puis le mot évolue carrément vers le sens de squelette, ce qui est très sympa, pour donner à Rook. Voilà, un vieux cheval que l'on cherche à stimuler à force de cris et de coups pour le faire avancer. Ce qui
pauvre
est,
cheval.
Voilà. Alors, harouk lui-même est issu de l'ancien verbe harré, l'ancien verbe français harré, qui veut dire exciter, qui donne l'expression haro, que les chasseurs utilisent pour stimuler leurs chiens. Alors, haridelle est encore employé aujourd'hui pour parler d'un vieux cheval maigre, mal formé, souvent harassé, fatigué, un peu à l'image du rossinante de Don Quichotte, bien sûr. Alors, si notre cheval parfois semble un peu mou, inutile de lui hurler haro aux oreilles, loin d'arranger les choses, ce coup de gueule resterait parfaitement stérile. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, au cours du 19e siècle, on voit apparaître de nombreux traités d'hippologie et d'équitation destinés aux officiers de cavalerie en charge de la formation des troupes à cheval. Et les règles de l'équitation, longtemps empiriques, se veulent désormais rationnelles et surtout plus simples, cela pour deux raisons. Alors d'abord, le souci d'économiser les chevaux autant que faire se peut sur les champs de bataille, puisque les cadres militaires avaient encore en mémoire la quasi-extermination du cheptel équin français au cours des guerres napoléoniennes, c'est vrai qu'il en restait pas beaucoup. Et la seconde venait du mode de recrutement. Alors les troupes de cavalerie étaient composées pour l'essentiel de jeunes paysans, souvent illettrés effectivement, nous sommes au 19e siècle, et qui pour la grande majorité d'entre eux ignoraient tout du cheval et de l'équitation. Ils connaissaient bien les bœufs, les moutons.
Mais connaissant la paille et connaissant le foin, puisque pour les faire marcher au pas, on leur disait mettez du foin dans le sabot gauche et de la paille dans le sabot droit. Et on disait paille, foin, et voilà, ils marchaient au pas cadencé.
Voilà, mais ceci dit, bon, généralement, ils avaient beaucoup plus contact avec les ânes, les mulets, les moutons, les vaches, les bœufs, etc. Mais les chevaux, pas tellement.
C'était, on disait pas un deux,
c'était,
deux.
Et c'est toujours un animal très cher. Hein, je veux dire, c'était pas tout le monde.
Ah bah
qui
c'était toujours
se payer,
l'animal qui était considéré comme.
Voilà. Voilà. Donc l'armée décide pour former tous ces jeunes gens de prendre des méthodes très simples, et donc effectivement, donc on a vu apparaître plein de traités d'équitation, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors pédagogiquement, les allures du cheval étaient classées en quatre catégories différentes. Alors là, c'est tout ça, c'est bien rationnel. Les allures dites naturelles, irrégulières, artificielles et enfin défectueuse. Alors tiens, n'importe qui, c'est quoi une allure naturelle,
Une allure naturelle, pour moi, c'est ce qu'on retrouve dans la nature. Voilà, le cheval qui est en liberté, qui n'a pas du tout été domestiqué par l'homme.
Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire ce que c'est, les allures naturelles?
Le pas, le trot, le galop.
Voilà, le pas, le trot, le galop. Absolument. Alors maintenant, les allures irrégulières. Qu'est-ce que c'est que les allures irrégulières? Ah ouais, non, c'était très pointu.
L'allure irrégulière, c'est qu'elle n'est pas régulière. Donc
mais ça, c'est formidable.
Je suis un peu la palie, c'est qui disait ça.
Oui. Bon, alors, je vais vous aider un peu.
Il y a une carence quelque part. Ça marche pas comme ça devrait marcher.
Alors justement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors j'ai cité une, Jean-Yves, le galop à quatre temps.
Oui, bien sûr, ça arrive sur les chevaux fatigués, les chevaux qui sont un peu blasés. Voilà. Et c'est un galop qui n'est pas à trois temps, qui est à quatre temps. Et
comme son nom l'indique.
Voilà. Puisque normalement, le galop est une allure à trois temps. Donc,
voilà. Alors on l'appelle régulier.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement du diagonal, alors. Il est désynchronisé, le diagonal.
Et puis il n'y a plus ce temps de suspension qu'il y a quand le cheval est en l'air. Voilà. Puisque dans les trois temps, il est
vient,
en l'air. Mais
le temps de suspension, il vient après le diagonal.
Après le diagonal.
D'accord.
Voilà. Alors on l'appelait aussi dans les traités, le galop de manège. Voilà pourquoi. Ça, c'était pas le grand galop. Voilà, c'est ça.
C'est le petit galop, presque de terre à terre, quoi.
Voilà, c'est ça. Les membres se lèvent l'un après l'autre, arrivent à terre dans l'ordre de leur levée, font entendre chacun une battue.
Tac-tac.
Voilà, c'est ça.
Alors, tac-tac. Tac-tac.
Alors, on va aller un petit peu vite. Le traquenard. Qu'est-ce que c'est que le traquenard, hein? Qui veut se lancer? Le traquenard.
C'est un piège, là.
Oui, c'est un vrai traquenard. Alors c'est
qui trotte devant et qui galope derrière, ou le contraire?
Non, c'est l'aubin. Alors on va laisser le traquenard, qui est une allure diagonale sautée dans lesquelles les membres arrivent les uns après les autres. Voilà, c'est ça. Et généralement, tu as raison, Jean-Yves, un cheval qui traquenarde, donc traquenardé, c'est un cheval qui est un petit peu crevé, quoi.
Et si les membres arrivent les uns avant les autres, il risque d'avoir un problème.
Alors le casse-gueulard. Voilà, ça c'est.
Oui, mais pensons que il faut penser quand même que le cheval se propulse et pousse avec son arrière-main, avec les postérieurs, donc, et qui se reçoit sur l'avant-main.
D'accord.
Donc il y a ce phénomène quand même qui est quelque chose de naturel qu'il faut respecter.
Alors l'aubin, qui c'est qui veut se lancer? Qu'est-ce que c'est que l'aubin? Cheval qui aubine, hein.
Mais ça, on aurait pu revoir un peu notre science.
Bon, c'est très simple, c'est
on
le mélange
pas
du trot et du galop.
Surprise, hein.
C'est-à-dire que, là encore, c'est un cheval fatigué ou pas en bonne santé, c'est-à-dire qu'il galope avec les postérieurs, il trotte avec les antérieurs, ou plus rarement, il trotte avec les postérieurs et il galope avec les antérieurs.
Mais ça se rapproche du toilt.
Oui, alors justement, c'est très bien,
Jean-Yves. Que font les Islandais.
Voilà, qu'on appelle aussi l'amble. Alors, dis-nous ce que c'est que l'amble.
Non, c'est pas pareil que l'amble. L'amble, c'est complètement latéral. C'est ce qu'on a appris au
chevaux. C'est une latéralisation.
C'est une latéralisation.
Voilà, comme les girafes.
Comme les girafes, voilà. D'accord.
Donc, l'amble, c'est pour les ecclésiastiques ou pour les dames, autrefois.
Voilà, qui était un petit peu, voilà.
C'était une allure très coulée et une allure qui permettait de tenir longtemps, qui était très économique. Donc, des chevaux.
Alors Jean-Yves, comme tu
es mis à l'amble.
Alors comme tu es un spécialiste de l'amble, je vais t'embêter un petit peu. L'amble rompu.
Ben, l'amble rompu, c'est qu'il n'est pas
on
régulier.
On prend un ambleur, on le casse en deux et on a un amble rompu.
Non, pas du tout. Non. C'est que il n'est pas régulier dans son amble parce que
c'est
pas régulier.
Voilà. Alors c'est une spécialisation des barbes qui savent très bien le faire en Afrique du Nord, qui leur permet de parcourir vraiment à des allures de 10 km/h. Ils arrivent à battre 100 km dans la journée, quoi. C'est un truc.
Et alors comment fonctionnent les pieds à l'amble?
Mais latéraux.
Alors c'est latéraux.
Oui, c'est une allure à quatre temps. Donc les deux pieds du bipède latéral se lèvent successivement et les postérieurs un peu avant les antérieurs. Voilà, c'est ça.
Au Moyen Âge, il y avait toujours un cheval ambleur qui était réservé aux ecclésiastiques ou aux dames.
Ou aux dames, voilà, exactement. Alors le pas relevé qu'on appelle aussi le haut pas ou l'entrepas. Qui c'est qui se sent inspiré?
Le pas relevé, c'est un pas d'école, ni plus ni moins, puis c'est tout, mais qui reste à quatre temps quand même. Donc le cheval est dans une allure naturelle, il n'est pas artificiel.
Voilà. Alors maintenant, on va passer aux allures qui étaient dites artificielles, puisque ça, même les officiers subalternes n'avaient pas le droit de le faire. Alors,
pas espagnol, par exemple.
Alors le pas espagnol, le pas d'école, alors là, allez.
Le pas d'école est une allure naturelle, c'est pas une allure artificielle.
Artificielle dans les traités.
Je suis désolé, ils se sont trompés dans les traités.
Ils se sont trompés, ça t'as le droit de le dire.
Moi, d'accord. J'ai vu des chevaux faire le pas d'école dans les traités, quand ils se grandissent. plus, ils font le pas d'école.
Alors tu sais pourquoi liberté. Tout simplement parce que tous ces airs relevés, ces airs d'école, étaient absolument interdits dans l'armée, parce que c'était...
Et réservés aux gradés, aux supérieurs.
Aux gradés, c'est-à-dire que même les officiers subalternes n'avaient pas le droit, et se faisaient drôlement taper dans les doigts quand ils se faisaient, et c'est pour ça que c'était nommé, c'était on disait que c'était des allures artificielles. Eux devaient rester aux allures naturelles.
À ce mur, il n'y a que l'écuyer en chef qui a le droit de faire le pas d'école.
Voilà, exactement. Alors, le pas d'école, c'est quoi ? C'est quoi le pas d'école ?
Ben, c'est un pas avec élévation, extension et soutien. Bon, c'est le
des antérieurs.
Des antérieurs, voilà. Et engagement des postérieurs.
Et engagement des postérieurs.
Attention à ça.
Et absolument, il faut que le cheval soit bien sous lui.
Il faut qu'il continue à se méjuger pour être dans la bonne attitude.
Très vite, alors ça c'est pour Karine, le passage. Tu m'as montré ton cheval qui passage merveilleusement bien. Alors tu vas nous dire ce que c'est que le passage.
Alors, je peux te dire à quel point c'est joli. Par contre, décrire au niveau technique, ça je sais pas.
C'est un trot soutenu. Avec élévation, extension et soutien aussi.
Voilà, d'accord. J'aurais pas mieux fait.
Alors le piaffé par rapport au passage.
Une allure brillante.
Ouais. Alors le piaffé par rapport.
Mais le passage sur place.
C'est le passage sur place. Voilà. C'est-à-dire c'est un passage où le cheval n'avance pas. Voilà, c'est ça. Et alors bon, il y a les sauts d'école. Alors tiens, Jean-Claude, tu vas nous citer quelques sauts d'école.
Un saut d'école, la cabriole.
La cabriole, par exemple. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Sinon, Jean-Yves.
La courbette. La vraie courbette.
J'aimerais bien savoir.
Parce que la courbette, il ne faut pas confondre avec la lévade. Dans la lévade, le cheval garde ses postérieurs au sol. Il est assis sur ses postérieurs et
ils
garde
sont fléchis.
Ses postérieurs au sol. Voilà. Il monte ses antérieurs, il monte ses épaules. Alors que dans la courbette, c'est un saut. Il saute sur ses postérieurs. Voilà.
D'accord.
Donc les postérieurs sont moins fléchis alors dans la courbette et dans la levade.
Ils se détendent.
Ils se détendent.
Voilà, alors que dans la levade, ils fléchissent.
D'accord. Donc quand on travaille la courbette, on travaille d'abord la levade et ensuite on demande d'avancer et à ce moment-là, on a la courbette.
Tu vas faire longue graine prochainement.
Merci. D'accord, parfait. Ça marche. D'ailleurs, je vais leur donner une petite démonstration des longues graines là tout à l'heure.
Ah, c'est bien.
Ouais.
Alors, dans les sauts d'école, il y a la courbette, la cabriole et la croupade.
Et la croupade, absolument. Oui. Voilà. Alors oui, on en a tout un... Plus on monte, c'est ça. On a la levade, la courbette, la pesade, le terre-à-terre, le mésaire, la croupade, la ballotade, la cabriole.
Voilà.
Donc ça fait quand même un paquet de trucs.
C'est quoi le mésaire ?
Alors justement, je voulais te poser une colle.
Oui. pose toujours.
Tu m'intéresses.
Décidément, c'est le printemps.
Voilà.
Hein,
on a... Ouais, non, mais voilà, c'est que j'essaye de donner du rythme. Voilà. Alors, il y a un truc, moi, que je déteste, qui s'appelle le galop en arrière. On en a parlé l'autre jour, Karine. On a vu une vidéo là-dessus. Quelqu'un qui faisait du galop en arrière pendant 20 minutes, qu'on ne citera pas, bien évidemment. Et en fait, est-ce que c'est pas une espèce de terre à terre, mais en marche arrière, hein, finalement?
Ben, c'est un refus d'avancer, quoi. Et puis,
on demande ça au cheval, hein.
Oui, c'est un terre à terre.
Ça ressemble à un terre à terre, en
tout cas. Un terre à terre, voilà, c'est ça.
Voilà. Mais bon, c'est pas beau et, on oublie. Hein,
et pourquoi on appelle ça du galop arrière? Parce que c'est pas du tout du galop.
Mais c'est
en
pas
fait.
Du tout du galop.
C'est non,
pas du
mais c'est encore, si. Encore, encore quelque chose qu'on a retrouvé sur des textes anciens et qui n'est pas tout à fait vrai.
Voilà. Et alors on va accélérer un petit peu
le. Il y a le galop à trois jambes.
Ce qu'on n'a pas dit, c'était la cabriole. Jean-Claude en a parlé. Mais il n'a pas dit pourquoi la cabriole. Parce que c'est le saut du cabri. Le cabri saute en l'air avec les quatre pattes et donc la cabriole.
Ah oui, et comme il est content, il rigole, donc c'est la cabri.
Oh là.
D'accord, mais avec Jean-Yves, tout devient.
Non, mais elle servait sur les champs de bataille quand même.
Oui, pour se dégager des ennemis. Oui. Quand les ennemis faisaient cercle autour du chevalier ou du cavalier, eh ben, ils faisaient la courbette à la cabriole. Ce sont les sauts d'école, ce sont des sauts.
Alors je vais citer rapidement, mais là on ne va pas les commenter.
Ce sont des sauts de guerre.
Les allures défectueuses, c'est-à-dire le cheval qui trousse, donc au trot, c'est mon antérieur se relevait exagérément, le cheval qui harpe, là aussi, donc au lieu de fléchir normalement...
Le cheval qui billarde, Michel, ça c'est le plus courant.
Le cheval qui...
Este caballo bailando bien.
Voilà.
Ça, et c'était alors... les Espagnols qui disaient ça autrefois. Ouais. Mais là, ils ont compris que le cheval, il valait mieux.
Alors, le cheval qui rase le tapis, c'est-à-dire qu'il ne monte pas assez ses membres, il risque de se casser la gueule en heurtant un caillou ou une touffe d'herbe. Le cheval qui se berce, donc son corps décrit en marchant un mouvement latéral. Le cheval qui se coupe ou encore corps qui s'atteint, donc c'est-à-dire il synchronise mal l'avancée de ses membres et un sabot atteint le pied devant et ça fait une petite blessure. Le cheval qui forge, c'est-à-dire il cogne ses fers les uns contre les autres quand il se déplace. Et puis évidemment le cheval à jarret vacillant, donc c'est le cheval qui est un petit peu faible, un peu fatigué, etc. Donc qui flageole un peu sur ses membres. Alors on va prendre maintenant une toute petite pause musicale avec Norah Jones, Be Here to Love Me. Ça c'est joli,
magnifique.
Sois ici pour m'aimer.
Though you and I both know it's only the warm glow of wine, that's got you to feeling this way. But I don't care, I want you to stay. Just to hold me and tell me
Alors, on va continuer notre florilège d'expressions en hippologie. Alors, un cheval qui a de l'ensemble, ça veut dire quoi ?
Ben, qui a du corps, qui a de l'ensemble, qui est bien rassemblé, qui est bien ramené, qui pousse avec ses postérieurs, qui se reçoit bien sur ses antérieurs.
Jean-Claude, un cheval décousu. Alors, est-ce qu'il faut du fil et des aiguilles ?
C'est exactement le contraire.
Ah, mais c'est formidable !
Tu m'as demandé d'être bref.
Karine, hein. Un cheval près de terre.
Ben, un cheval qui lève pas assez les membres ?
Non. Des membres courts et forts, comme le Mérins, le Potchoc ou le Camargue, par exemple. Voilà, ouais. Voilà, exactement. Jean-Yves, un cheval qui se couche en vache.
Ah ben oui, alors c'est un cheval qui se touche avec ses postérieurs et qui s'abîme l'articulation des antérieurs.
D'accord. Un cheval qui a du cachet, Karine. Est-ce qu'il est malade et...
C'est un cheval qui a du cachet, qui a du charisme.
Oui, qui a du cachet, c'est-à-dire que effectivement, en fait, il a, sans être d'une race, il a les caractéristiques d'une certaine race. Voilà, c'est cela. Voilà. Tiens, pour Jean-Claude, un cheval ficelle.
Un cheval ficelle.
Ouais.
Eh ben,
c'est pour faire le rôti.
C'est pas un bon mot pour le cinéma parce qu'on ne prononce jamais ficelle.
Alors, je peux pas en parler. Moi, on le prononce pas au cinéma.
Bon, ficelle. On passe. Ficelle, c'est un cheval qui est malin.
On passe.
Qui sait prévenir et qui sait.
On passe, alors se donne une deuxième chance. Un cheval dont la lame use le fourreau.
Alors là, c'est un peu compliqué dans l'histoire. La lame.
Non. Sa nervosité le pousse à des comportements violents qui l'épuisent rapidement. C'est-à-dire, il bouge beaucoup, il est très bouge, et puis il s'épuise rapidement. Alors, un cheval beau voleur, Jean-Yves, ça va te...
Oui, un cheval beau voleur, ben, c'est un cheval qui pioche un peu, qui se grandit un peu artificiellement. Et qui vole un peu des allures naturelles.
C'est ça, et puis surtout qui présente bien, par exemple, sur les foires, on voit bien.
Oui. Et puis, beau voleur, oui, voilà, beau cheval.
Fois, voilà, on l'achète très cher, et quand, quand on l'amène à la maison, on s'aperçoit qu'il est tout faible, tout fatigué, tout pas bien, etc. C'est-à-dire qu'il s'épuise très, très, très rapidement. Alors, un cheval qui a du gros. Alors, est-ce qu'il a un gros cavalier sur le dos?
Non, mais je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est toutes les questions difficiles m'arrivent. Un cheval qui a du gros, et bon, ben c'est le contraire d'un cheval qui a du mince.
Voilà. Alors on passe. Un cheval qui est droit. Là, quand même, tu vas nous le dire, Jean-Claude. Un cheval qui est droit. Donc s'il dit il est pas tordu, tu vas me dire. Ok.
Oui, il est droit d'épaule et de hanche. Hein.
Voilà, c'est ça. Et alors avant, enfin dans le temps, ça voulait dire tout simplement un cheval qui ne boitait pas. On disait qu'il était droit. Et maintenant, quand on dit un cheval qui est droit, Jean-Yves, ça
veut
dire...
Il était ferme, il était dans son allure. Quoi. Il n'était pas hésitant.
Voilà.
Il était ferme.
Alors, bon, pour Karine, quelque chose de simple. Un cheval tout nerf, plein de feu, ou encore qui a de l'âme. Âme.
Un cheval vif,
très généreux, Karine. Voilà. Un cheval qui veut faire des choses, bien entretenu, bien nourri. Il veut faire des choses, donc...
Voilà. Bon, ben, alors écoutez, c'est quand même formidable. Donc, moi, je vous note quand même, disons, on va dire 16 sur 20, quoi. C'est très bien, très bien.
J'aurais bien aimé que mes profs à l'école soient aussi généreux que toi. Hein.
Oui, on est tombé dans une embuscade aujourd'hui. Hein.
Ah, mais ça, je vous l'avais dit la semaine. Hein. Oh. Ah oui, oui, oui. Non, mais l'hypologie, c'est important, à savoir de quoi on parle.
Oui, bah, il y a beaucoup de choses qui sont de l'hypologie, mais sophistiquées, là. Hein,
sophistiquées.
Ah, bah, et ce qu'on peut dire, c'est que tous les airs qui sont pas du tout naturels et qui sont soi-disant considérés, ou peut-être d'ailleurs à juste titre, artificiels, ne sont pas autorisés dans les concours.
Non, absolument.
Voilà. Oui. Dans les concours de dressage, il ne peut pas y avoir d'air qui ne sont pas naturels.
Qui ne sont pas une sublimation de la. Bon, mais là encore, il faut bien voir que les choses évoluent. Hein. Je dis, rien n'est figé, et en particulier avec ce que vous faites, les trois, c'est-à-dire bon, de l'équitation hyper classique, évidemment, mais de l'équitation de spectacle, puisque vous faites de l'équitation de spectacle, vous êtes amené à partir d'un art naturel, à le sublimer pour le spectacle et d'en faire quelque chose. Après tout, peut-être que dans quelques années, ce seront des airs qui seront demandés.
Non, je ne crois pas, Jean-Yves. Il y a qu'une équitation, c'est l'équitation qui va avec le cheval dans le consentement du cheval. Et le premier jeu, c'est le cheval. Quand le cheval est d'accord, quand il dit oui et quand il le dit comme il faut, c'est la véritable équitation. Il faut que le cheval se plaise avec son cavalier sur le dos.
Se plaise dans son air, oui.
Et se plaise dans son air. Pour se plaire dans son air, il faut qu'il soit pas forcé, qu'il soit pas obligé, qu'il soit pas piqué, qu'il soit pas, parce qu'il faut pas se tromper, hein. Il y a des airs qu'on prend pour des vrais airs et qui n'en sont pas. Il y a des piaffés qui sont des cris de douleur. Alors donc il faut que les gens soient initiés, soient, ils comprennent.
Ah oui, un air naturel mal exécuté peut être une véritable catastrophe pour le cheval. Voilà. Alors on va arriver au dicton de la semaine maintenant, et ça répond qui veut. Alors il y a vraiment deux choses qui ne doivent jamais pénétrer dans un manège. Jamais. C'est la nervosité, hein, et la colère, deux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Exact.
Tout à fait d'accord. D'ailleurs, les chuchoteurs américains, les vrais, hein, ceux de l'origine, ils disent qu'il n'y a qu'un seul sentiment qui est autorisé avec les chevaux, c'est l'humour.
C'est l'humour. Et c'est vrai que les chevaux ont le sens de l'humour.
Absolument. Jean-Yves, toi, oui, il y a un détachement qui fait que c'est pour ça que les dames réussissent mieux que les hommes, parce qu'elles ont moins de moyens et moins de possessions empiriques, et elles se sont beaucoup plus réceptives et beaucoup plus, et donc elles dégagent une adrénaline de consentement qu'on perçoit le cheval. Et si on fait le contraire, qu'on y va avec violence et colère, c'est une adrénaline d'opposition, et ça énerve le cheval, ça lui fait peur, et il est coincé. Ils sont anesthésistes, les chevaux. Ils sentent très bien l'état d'esprit dans lequel on les aborde.
Et aussi, la femme, elle est beaucoup plus dans la relation, et l'homme, il est beaucoup plus dans le résultat.
Dans le résultat, voilà, c'est
oui,
ça.
Il veut gagner.
Ceci oui, d'entrée, Jean, il n'a pas encore commencé, qu'il veut déjà le résultat. Ouais. Alors que la femme, elle ne s'occupe elle pas attendre. Du résultat, mais ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est la relation.
C'est la relation. Ceci dit, j'ai connu chez Jean-Yves deux chevaux pleins d'humour. Bon, évidemment, ton immense Ivanhoé, qui était un cheval marrant, et Petit Prince.
Oui.
C'était un malin, mais il nous faisait pouffer de rire, parce qu'il inventait des petits trucs. Hein. Des fois même, il disait un peu tourner en bourrique avec le chapeau.
Mais les chevaux sont comme les gens, hein. Ils ont un esprit inventif quand on leur permet de faire quelque chose.
C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins d'une histoire fabuleuse, l'histoire de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui encore, Jean-Yves.
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles.
À la semaine prochaine, un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey. La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey. et souris. Ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Que tu as perdu, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Langue d'autoroute, après la mer, les salins, les marées, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Bézous, Saliège, milieu du Seine, patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du roi de Rhodes, entrée dans